Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La finance pour les nuls en 50 notions clés » de Christoph Nijdam est un ouvrage de vulgarisation consacré aux mécanismes fondamentaux de la finance. Organisé autour de 50 entrées, il vise à rendre intelligibles des termes souvent associés aux marchés, aux entreprises et aux décisions patrimoniales, sans supposer de formation technique préalable. Le livre distingue notamment la finance de la seule activité boursière et relie les notions financières aux choix concrets des entreprises, des banques, des investisseurs et des épargnants. Son champ couvre la lecture des états financiers, la trésorerie, les décisions de financement, la valorisation, le risque, la régulation et la finance durable. Cette deuxième édition, parue en 2024, adopte un format de référence plutôt qu'un cours linéaire. Le lecteur peut donc consulter un concept isolé tout en percevant les liens entre rentabilité, coût du capital, endettement et création de valeur. La finalité est de donner des repères pour comprendre les informations financières et les arbitrages qu'elles recouvrent. Je vais vous présenter les points clés de ces livres. Premièrement, actualisation et coût du capital au centre des décisions d'investissement. L'actualisation constitue un principe structurant de la finance présenté dans cet ouvrage. Elle part d'une idée simple, une somme disponible, maintenant ne possède pas la même valeur qu'une somme, identique reçue plus tard. Entre les deux interviennent le temps, le risque et la possibilité d'employer immédiatement cet argent. Pour comparer des projets, des revenus futurs ou la valeur d'une entreprise, il faut donc ramener les flux attendus à une valeur présente à l'aide d'un taux approprié. Ce raisonnement évite de confondre un montant futur élevé avec une opportunité nécessairement avantageuse. Le livre associe cette logique à la décision d'investissement et au coût moyen pondéré du capital. Une entreprise ne crée pas automatiquement de la valeur parce qu'elle dégage un bénéfice ou finance un nouveau projet. La création de valeur suppose que le rendement des capitaux investis dépasse le coût des ressources mobilisées, qu'il s'agisse des fonds apportés par les actionnaires sous de la dette. Cette distinction est importante pour interpréter une acquisition, un plan d'investissement ou une croissance financée à crédit. Elle montre aussi pourquoi les attentes de rendement ne sont pas arbitraires, elles rémunèrent un risque et une immobilisation de capital. Le traitement de ces notions fournit ainsi une grille de lecture utile pour les choix collectifs de l'entreprise comme pour l'évaluation plus générale d'un actif financier. Deuxièmement, trésorerie, cash flow et besoin en fonds de roulement, la réalité derrière le bénéfice. Le livre met en évidence une distinction essentielle entre résultat comptable et trésorerie. Le compte de résultat mesure la performance sur une période selon des règles comptables, mais il ne dit pas à lui seul si l'entreprise dispose des liquidités nécessaires pour payer ses salaires, ses fournisseurs, ses impôts et ses échéances financières. Le cash flow renvoie davantage aux encaissements et décaissements effectifs. Cette différence explique qu'une société puisse afficher une rentabilité apparente tout en rencontrant de graves difficultés de paiement. Le besoin en fonds de roulement éclaire ce décalage. Dans le cycle d'exploitation, l'entreprise engage souvent de l'argent pour acheter, produire ou stocker avant d'encaisser les ventes. Lorsque les clients règlent tardivement ou que les stocks augmentent, une partie des ressources reste immobilisée. Le cycle quotidien peut alors absorber la trésorerie, même si les ventes progressent. En reliant bilan, compte de résultats et tableau des flux de trésorerie, l'ouvrage donne les bases pour ne pas isoler un seul indicateur. Cette perspective est concrète pour comprendre la fragilité des entreprises en croissance, la nécessité d'un financement de court terme ou l'importance des délais de paiement. Elle rappelle que le bénéfice exprime une mesure de performance, tandis que la disponibilité de cash conditionne la continuité immédiate de l'activité. Troisièmement, effet de levier et capacité de remboursement, les limites de l'endettement. L'endettement occupe une place centrale parce qu'il permet de financer des investissements sans demander immédiatement la totalité des fonds aux actionnaires. L'emprunt peut accroître le rendement des fonds propres lorsque les actifs financés rapportent davantage que le coût de la dette. C'est le mécanisme de l'effet de levier, mais le livre ne le présente pas comme un outil mécaniquement favorable. Le même amplificateur accentue les pertes lorsque la rentabilité diminue ou que les charges financières deviennent trop lourdes. La dette introduit des obligations précises de remboursement et de paiement des intérêts, indépendamment du niveau de vente ou des bénéfices du moment. L'analyse doit donc porter sur la capacité de remboursement, l'endettement financier net et la régularité des flux de trésorerie. Une entreprise peut posséder des actifs importants, mais rester vulnérable si elle manque de liquidité au moment de faire face à ses échéances. Cette lecture éclaire aussi le lien entre structure financière et faillite. Un niveau de dette excessif réduit la marge de manœuvre en cas de ralentissement, de hausse des taux ou de recul des encaissements. En distinguant financement bancaire, fonds propres et autres sources de capitaux, l'ouvrage invite à considérer le financement comme un arbitrage entre coût, risque et autonomie. Il fournit ainsi un cadre pour comprendre pourquoi une croissance rapide ou une opération ambitieuse peut devenir dangereuse lorsqu'elle repose sur une dette mal proportionnée aux capacités réelles de l'organisation. Quatrièmement, évaluer une entreprise sans réduire sa valeur à un simple cours de bourse. Parmi les notions recensées figurent plusieurs méthodes d'évaluation d'entreprise, approche patrimoniale, comparaison avec des sociétés semblables et évaluation intrinsèque fondée sur l'actualisation des flux futurs. Leur coexistence souligne qu'une valeur financière n'est pas un chiffre absolu obtenu par une formule unique. L'approche patrimoniale part des actifs et des dettes, ce qui peut être pertinent lorsque les éléments du bilan dominent. La méthode des comparables observe les valorisations attribuées par le marché à des entreprises proches, mais elle dépend de la qualité des comparaisons et de l'humeur des marchés. La méthode des flux de trésorerie actualisés se concentre sur la capacité future à générer du cash, tout en exigeant des hypothèses prudentes sur la croissance, les marges et le taux d'actualisation. Le livre relie ces démarches à l'analyse financière et stratégique. Les chiffres historiques doivent être lus avec le modèle économique, la position concurrentielle, les besoins d'investissement et les risques. Un multiple boursier ou un bénéfice isolé ne suffit donc pas à établir une valeur robuste. Cette partie est utile pour comprendre les annonces de fusion-acquisition, les levées de fonds et les débats sur le prix d'une action. Elle montre surtout que l'évaluation est une discipline de comparaison et de projection, où la transparence des hypothèses importe autant que le résultat final. Le lecteur est ainsi mieux armé pour repérer les raccourcis qui assimilent valeur comptable, prix de marché et valeur économique. En dernier lieu, risque, régulation et finances durables dans une vision élargie du système financier. L'ouvrage ne limite pas la finance à la gestion interne des entreprises ou à la sélection de titres boursiers. Les entrées consacrées aux risques, aux crises financières, à la régulation, aux produits dérivés, au shadow banking et à la finance durable replacent les décisions individuelles dans un système plus vaste. Le couple risque-rentabilité sert de fil directeur, un rendement espéré plus élevé ne constitue pas un gain gratuit, mais la compensation d'une aléa plus importante. La diversification peut réduire l'exposition à certains risques spécifiques, sans supprimer les risques communs à l'ensemble des marchés ou de l'économie. Les crises rappellent que le crédit, la liquidité et la confiance sont interdépendants. Quand les valorisations baissent ou que le financement se raréfie, les difficultés peuvent se propager entre acteurs. La régulation répond en partie à ces vulnérabilités, notamment par des règles visant la solidité des institutions et la protection des épargnants, tout en posant la question de ses limites face à des activités financières moins visibles. L'inclusion de la finance durable élargit enfin le cadre de l'évaluation. Elle incite à considérer les conséquences environnementales, sociales et de gouvernance dans les choix de financement et d'investissement. Cette dimension ne remplace pas l'analyse du rendement et du risque. Mais elle montre que les critères utilisés pour allouer le capital peuvent intégrer des enjeux de long terme et de responsabilité. En conclusion, la finance pour les nuls en 50 notions clés s'adresse en priorité aux personnes qui veulent acquérir un vocabulaire financier fiable sans suivre un manuel universitaire complet. Étudiants, salariés confrontés à des budgets ou à des indicateurs, entrepreneurs, épargnants et lecteurs désireux de mieux interpréter l'actualité économique, son bénéfice pratique tient à la mise en relation de concepts qui sont souvent appris séparément. Comprendre le cash flow aide à lire la santé d'une entreprise au-delà de son bénéfice. Comprendre l'actualisation et le coût du capital aide à juger une décision d'investissement. Comprendre le levier aide à mesurer ce que la dette rend possible et ce qu'elle expose à perdre. Le livre peut également servir de guide de consultation face à des mots rencontrés dans un bilan, une annonce de marché ou un débat sur une crise financière. Sa singularité dans le segment des introductions à la finance réside dans son organisation en 50 notions et dans l'étendue de son périmètre. Il couvre à la fois finances d'entreprise, marché, évaluation, banque, régulation et finances durables. Plutôt que de se limiter à la bourse ou à la gestion personnelle, le ton de vulgarisation de la collection favorise l'accessibilité, tandis que les notions telles que le besoin en fonds de roulement, les flux de trésorerie actualisés ou le coût moyen pondéré du capital conservent une portée analytique réelle. Il constitue donc une base structurée pour apprendre à raisonner sur les flux, les risques et les arbitrages financiers. Si vous souhaitez soutenir Christophe Nijdam, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast.